écoutons la parole de Dieu. Je vous invite à suivre la lecture de l'Écriture sainte à la dernière page de notre Bible, au chapitre 22 de l'Apocalypse. Nous lisons quelques versets dans l'Apocalypse selon saint Jean, au chapitre 22, les versets 6 et 7, et puis les versets 10 à 20. Il me dit, rapporte Jean, le « il » désigne l'ange qui lui explique les visions. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves, car nous sommes les esclaves de Dieu, nous lui appartenons totalement, à ses esclaves, ce qui doit arriver bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Puis au verset 10, puis il me dit, ne tiens pas secrètes les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, que le juste fasse encore la justice, et que celui qui est saint soit encore consacré. Je viens bientôt. Là, c'est le Christ qui parle. Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de la vie et pour entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. C'est moi qui suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin. L'esprit et la mariée, c'est-à-dire l'Église, disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif « Vienne ». Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Moi, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » L'avertissement solennel que nous venons de lire quant au sort qui attendrait quiconque ajouterait ou retrancherait du livre concerne plus particulièrement le livre de l'Apocalypse. Il a d'abord circulé séparément. Les premiers chrétiens n'avaient pas un recueil tout fait de tous les livres que nous disons canoniques, de tous les livres qui constituent notre Bible. L'avertissement concerne cette révélation de Jésus-Christ. Le mot Apocalypse veut dire révélation, et ce n'est pas la révélation de Jean, c'est la révélation de Jésus-Christ, d'après les premières lignes du livre lui-même, dont Jean a été destinataire et bénéficiaire pour nous, pour qu'il nous transmette ses visions très instructives. Mais ce n'est pas par hasard que la Bible, une fois constituée dans son entier, le livre de l'Apocalypse a été placé à la fin. Nous pouvons avoir cette confiance que la providence de Dieu a conduit les choses. Et tout le livre biblique peut s'appeler prophétie. On le trouve ainsi visée dans les paroles qu'on trouve, par exemple, dans la deuxième épître de Pierre, à la fin du chapitre premier. Toute prophétie d'écriture, toute l'écriture est prophétie, c'est-à-dire parole venant de Dieu. Je reviendrai sur ce point précis. Ce qui fait que nous pouvons appliquer l'avertissement du verset 18 que nous avons lu, quiconque ajoute à ce livre, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre, nous pouvons l'appliquer à la Bible entière. Et à ce moment-là, l'avertissement a pratiquement le même sens que ce principe par lequel on résume un des aspects du message de la Réforme, un des slogans, quasi-slogans, de la réformation du XVIe siècle qui a donné naissance à toutes les églises protestantes, sola scriptura. Sola scriptura, scripta c'est l'écriture sainte, l'écriture par excellence, la Bible, et sola c'est l'adjectif latin qui veut dire seul. La formule doit se traduire en fait plus rigoureusement par l'écriture seule. Le cas grammatical, on peut l'établir, c'est donc que c'est par l'écriture seule que nous devons être guidés, dirigés, gouvernés. Voilà le sens de la formule. Elle est donc à peu près équivalente à cet avertissement, ne pas ajouter aux paroles du livre l'écriture seule. Alors au XVIe siècle, au temps de Luther, de son collègue Melanchthon, de Calvin, de Farel, de tous ceux qu'on appelle les réformateurs, la formule par l'écriture seule s'oppose à celle que défendaient les représentants de l'institution catholique romaine. La formule opposée, c'était celle que le Concile de Trente a pratiquement ratifiée, l'écriture par l'écriture et la tradition. C'est là la formule qui a été pratiquement votée par le Concile de Trente. Trente est la ville d'Italie où s'est réuni ce concile, dans sa quatrième session, le 8 avril 1546. Après avoir reconnu que l'Ancien et le Nouveau Testament ont Dieu pour auteur, les pères conciliaires, les évêques réunis, ont voté, et là je cite, que les traditions elles-mêmes, relatives soit à la foi, soit aux mœurs, conservées par succession continue dans l'Église catholique, sont reçus et vénérés avec la même piété et la même révérence que les Bibles de l'Ancien, que les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est cela que les réformateurs et les héritiers de la Réformation après eux ne peuvent pas admettre, car ils trouvent dans les dites traditions des choses qui divergent gravement de l'Évangile. Un grand prédicateur évangélique du XIXe siècle, Adolphe Monod, dont vous avez peut-être lu des prédications très très percutantes, disait, c'est un peu brutal comme image, mais se vanter d'avoir la Bible et la tradition, c'est comme se vanter d'avoir ce palais et puis le canon qui tire dessus. En même temps, le problème aux yeux donc des réformateurs, c'est que la tradition n'est pas homogène, d'accord au fond, en tous les points importants, avec l'écriture sainte elle-même. En fait, on dit la tradition dans la formulation classique du débat, mais ce n'est pas tant la tradition que ce qu'on appelle le magistère. Le magistère, le mot vient du latin là aussi, hein. Magister, c'est le maître, c'est l'autorité d'enseignement que tous les cadres, si on veut les appeler comme ça, de l'Église catholique romaine considèrent avoir reçu. Le magistère, c'est la capacité qu'ils ont de dire quelle est la vérité à toutes les ouailles, c'est-à-dire les brebis, toutes les ouailles du peuple des croyants. Dans la tradition, dans les traditions, c'est une masse considérable, on trouve tout et son contraire, ou presque, on trouve en tout cas des éléments qui partent un peu dans tous les sens. Et la tradition qui compte, selon le Concile de Trente et selon l'enseignement du catholicisme romain de l'époque, c'est le magistère qui en décide. C'est lui qui dit ce qui est vraiment la tradition à révérer autant que l'Écriture sainte et en conjugaison avec elle. C'est donc le magistère qui est l'autre autorité. L'Écriture et le magistère, l'Écriture et les évêques, l'Écriture et l'évêque qui est au sommet de toute cette hiérarchie, l'évêque de Rome, qui se considère comme le vicaire de Jésus-Christ, comme le docteur de tous les chrétiens, docteur universel, souverain pontife. C'est l'autorité de ce corps enseignant et de sa tête, qui est le pape, qui est en cause véritablement dans le débat. Les réformateurs reconnaissent qu'il y a des choses tout à fait positives à retenir, mais pensent que si l'Église, dans ses structures instituées, dans son personnel dirigeant, peut décider en dernier lieu ce qui doit être cru et pratiqué, alors il lui sera impossible de se réformer. Surtout que c'est le magistère aussi qui peut dicter quel est le sens de l'Écriture, qui peut dire parmi les interprétations, voilà, c'est là le vrai sens de l'Écriture, même si cela n'apparaît pas très très clairement. Il y a eu un débat au XVIIe siècle d'ailleurs entre un pasteur protestant et un représentant du catholicisme, où ça a été dit de manière très 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 ferme. L'Évangile dit à propos du vin de la Seine, buvez-en tous, et l'Église sait que ça ne veut pas dire buvez-en tous. Voilà ce que a dit le pasteur, et l'évêque en face, évêque ou théologien, je ne sais plus, a répondu, mais oui, et oui. L'Église peut dire le sens vrai des Écritures, même quand le lecteur plus ou moins naïf a l'impression que c'est un sens tout différent. Le problème est donc celui du rapport de l'Écriture et du magistère. Le problème qui s'est posé au XVIe siècle, c'est que le magistère de l'Église a rejeté l'Évangile dont le moine professeur de théologie Martin Luther avait fait la redécouverte dans l'Épître aux Romains. Les textes de l'Épître aux Romains l'avaient saisi, l'avaient bouleversé, l'avaient libéré, et quand il a exprimé dans sa prédication ce qu'il avait découvert, après un certain temps d'ailleurs, les autorités se sont émues et ont déclaré que c'était une hérésie. Et Luther ne pouvait pas renier ce dont il avait une expérience si vive et si précieuse. Et c'est ainsi qu'en quelques années, ça a pris un peu de temps, hein, parce qu'il avait été formé comme catholique romain, c'est ainsi que Luther a été amené à dire « L'Écriture seule doit nous diriger, c'est par l'Écriture seule que nous sommes guidés, et non par la tradition que le magistère nous propose. » Je voudrais développer aujourd'hui le sens de ce « par l'Écriture seule » après l'avoir inscrit dans son contexte historique premier. Et la première chose à faire, je crois que c'est de balayer des malentendus, déblayer le terrain pour pouvoir bien comprendre. Il y a des façons de dire « par l'Écriture seule » qui prêtent à confusion, méprise. Dire l'Écriture seule, ce n'est pas dire c'est le seul livre que nous devions lire, le seul livre que nous ayons droit d'ouvrir. Il y a eu des chrétiens, un peu aux marges, hein, du mouvement évangélique parfois, qui se sont dit, non, vraiment je ne peux lire que la Bible. Ce n'est pas le sens, puisque les auteurs bibliques eux-mêmes citent d'autres ouvrages. L'apôtre Paul, par exemple, dans son discours qu'on trouve au chapitre 17 du livre des Actes, cite un philosophe poète grec, Aratos. Donc, ce n'est pas que la Bible soit le seul livre à lire. Ce n'est pas non plus que la Bible soit le seul livre revêtu d'autorité. Il y a d'autres livres qui jouissent d'un degré d'autorité important. Bah, le code civil, par exemple, c'est une autorité. Un traité de médecine, c'est une autorité aussi sur la manière de soigner les gens. Donc, ce n'est pas dire que c'est le seul écrit qui est une autorité quelconque. Dire sola scriptura, ce n'est même pas dire que c'est le seul livre qui possède une autorité en matière religieuse pour la foi et les mœurs, pour nous aider à croire juste et à œuvrer selon le bien. Nous utilisons aussi les écrits des réformateurs. Les écrits des réformateurs nous sont utiles, nous en profitons. Ce sont quand même des livres qui ne sont pas la Bible. Et les traditions, mais nous les révérons. Nous refusons de les mettre sur le même pied que la Bible elle-même. Mais il est utile de les connaître. Nous pouvons y trouver des richesses. Nous avons nos traditions, nous aussi d'ailleurs, nos traditions particulières, et même spécifiquement tabernaclaises. Mais le mot tradition est un mot qui est tout à fait honorable. Et au XVIe siècle, Calvin était connu pour sa connaissance des pères de l'Église. Il connaissait les grands textes de la tradition, précisément mieux que beaucoup des controversistes catholiques, et c'est ainsi qu'il remportait les suffrages de ceux qui écoutaient dans certaines discussions. La tradition a pour nous aussi de l'autorité. Alors, quand nous disons sola scriptura, par l'écriture seule, que disons-nous? Nous disons que c'est le seul livre qui possède l'autorité suprême, souveraine. C'est le seul livre duquel il soit impossible d'en appeler à une autorité supérieure. Les cours d'appel en France, on peut encore faire appel de leurs décisions à la Cour de cassation et même maintenant à la Cour européenne de justice. Mais il y a encore des instances supérieures. Mais l'Écriture sainte, la Bible, est l'autorité suprême. Quand nous voyons dans l'Écriture Jésus, notre Seigneur même, dire « il est écrit », ça règle la question. Il est écrit, on ne va pas chercher au-delà, on ne va pas remettre en question, jamais dans la Bible, lorsque nous lisons « il est écrit ». C'est une telle autorité de l'Écriture que Jésus a défendue contre les docteurs juifs de son temps. Au chapitre 15 de l'évangile selon Matthieu, nous voyons qu'il leur dit « vous annulez », littéralement c'est un mot qui est de la même racine que « seigneur », « vous déseigneurisez la parole de Dieu par votre tradition, en rajoutant vos couches d'interprétation ». C'était la tradition, en particulier des pharisiens, au texte qu'ils prétendaient respecter de la Torah. Jésus dit, vous annulez l'autorité. Vous enlevez en réalité l'autorité au texte, au profit de votre tradition. Évangile selon Matthieu, chapitre 15 et verset 6. C'est ce même combat qu'ont voulu mener les réformateurs avec leur sola scriptura, par l'écriture seule. Alors la question qu'on peut se poser aussitôt, c'est pourquoi une opposition si exaltée, au nom de quoi, à quel titre l'Écriture peut-elle jouir d'un rôle d'instance définitive au-dessus de laquelle on ne peut pas monter? La réponse dans la Bible est très très claire. On la trouve dans de nombreux passages, mais je vais en évoquer deux ou trois. C'est parce qu'elle est parole de Dieu. L'Écriture sainte est parole de Dieu, c'est Dieu qui parle par elle. Et si on a le moindre sens de Dieu, évidemment si Dieu parle, il n'y a pas d'instance supérieure. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la disposition que Dieu lui-même énonce. Jésus, discutant avec les docteurs du judaïsme, de nouveau, au chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean, dit... cite une parole d'un psaume, une parole qu'on aurait très bien pu laisser de côté, dans le psaume 82. vous êtes, j'avais dit, vous êtes des dieux, dit à des juges humains représentants de Dieu et qui ont trahi la mission qui leur était assignée. Si la parole de Dieu appelle donc Dieu ces hommes, et l'Écriture ne peut être anéantie, ou littéralement déliée, son autorité ne peut pas être dissoute. Alors comment pouvez-vous parler comme vous parlez lorsque je m'affirme fils de Dieu? Mais vous voyez, Jésus emploie Écriture et parole de Dieu comme des équivalents dans cette phrase, et il souligne que c'est une autorité qui ne peut être en aucune façon dissoute, remise en cause. C'est le sens de prophétie. Et à la fin du chapitre 1er de la deuxième épître de Pierre, Pierre souligne que ces textes ne sont pas venus par volonté d'homme, mais que c'est porté par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est le sens du mot « inspiration ». Dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 3, verset 16, quand Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu, c'est dans un seul mot d'ailleurs dans le texte, ça veut dire qu'elle est produite par l'Esprit de Dieu. Qui est Dieu? Le souffle de Dieu. De même que chacune des paroles que nous prononçons est portée par notre souffle, produite par notre souffle et notre esprit, de même la Bible est produite et portée par le souffle de Dieu, son esprit, elle est parole de Dieu. Alors bien sûr, elle est aussi parole humaine. Enfin bien sûr, il faut le souligner. Le fait qu'elle soit parole de Dieu n'a pas transformé les hommes par lesquels Dieu a parlé en marionnettes. Non, non, il les a élevés en responsabilité. Il leur a donné de proférer une parole qui était leur parole, et en même temps de parler en son nom à 100%, de telle sorte que nous avons à 100% une parole de Dieu et une parole humaine. Et c'est parce que c'est une parole humaine, Dieu a condescendu à ce que sa parole soit portée par des hommes que nous pouvons comprendre, que nous pouvons accéder à son sens. Le noyau de notre Bible, ce sont les enseignements de Jésus, le Christ, le Seigneur lui-même. Or, ces paroles qu'il a fait apprendre à ses apôtres, et ensuite il leur a donné son esprit pour qu'il les garde en mémoire, qu'il les applique pour les croyants, ces paroles de Jésus sont paroles de Dieu, puisqu'il est Dieu. Il est Dieu venu en chair. Mais sont des paroles d'hommes aussi, car Jésus est vrai homme, semblable à nous en tout, hormis le péché. Et donc, hormis l'erreur, qui est une forme ou conséquence du péché. L'Écriture est parole de Jésus-Christ, Dieu homme, parole divine, parole humaine. Les prophètes ont été déjà animés par son esprit, d'après ce que dit la première épître de Pierre. Donc c'est déjà lui qui parle par avance, parce que c'est son esprit qui meut les prophètes de l'Ancien Testament, et c'est son esprit encore qu'il a donné aux apôtres qu'il a formés. C'est la parole du Christ. Et Calvin aimait dire que le sceptre par lequel le roi Jésus, le roi Messie Jésus, règne dans son Église, mais c'est l'Écriture, c'est sa parole, c'est le moyen de son gouvernement. Et cela implique, entre autres, l'infaillibilité de l'Écriture. Car s'il y avait une erreur, quelque chose que nous devions rejeter dans l'Écriture, son autorité serait forcément battue en brèche. À ce moment-là, nous dirions, non, là, je n'obéis pas à l'Écriture, puisque c'est une erreur, on ne va pas obéir à une erreur. Je n'obéis pas à l'Écriture, donc son autorité ne serait plus souveraine. Et cela est attesté. Nulle part, Jésus ne remet en cause la véracité parfaite, l'autorité entière des Écritures, où il entend la parole du Père, qui par son esprit a inspiré les auteurs de la Bible. Mais il y a encore quand même une grande question qui se pose. Pourquoi sola scriptura? Pourquoi l'exclusivité Il faut encore préciser ce point. Il y avait un verset qui avait fortement marqué Luther, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 4. L'apôtre Paul dit « Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. » Et tout homme menteur. S'il faut dire « sola scriptura », si c'est exclusif, c'est parce que l'unité est plongée dans les dérèglements du mensonge et de la sottise. C'est parce que précisément, comme nous l'avons chanté, c'est comme sur la mer dans d'une tempête, on ne sait pas où, dans quelle direction aller, on ne sait pas qui écouter. On entend les discours les plus contradictoires. L'intelligence humaine est obscurcie par le rejet de Dieu. C'est le père du mensonge qui exerce son influence. Il est l'esprit qui agit dans tous les rebelles que sont les humains. Le monde entier gît sous son influence, comme dit un verset de la première épître de Jean, cette fois, chapitre 5. C'est pour ça que l'Écriture seule peut nous guider. L'Écriture seule est la lumière du phare. Comme un phare, Dieu resplendit pour les siens et pour les guider. Et cela, c'est vrai aussi pour l'Église, même si ceux qui sont membres de l'Église ont été remis dans la lumière, sont ceux qui ont accepté de suivre les rayons du phare, la vision n'est pas encore entièrement guérie. Leur regard, notre regard, facilement se déforme. Et nous avons toujours besoin de l'Écriture, et de l'Écriture seule, pour nous corriger, pour nous donner de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, comme Dieu les voit, lui. C'est vrai pour chaque individu, pour ça que nous avons besoin de réformer notre vie à la lumière de la parole de Dieu, et c'est vrai pour les institutions aussi. C'est vrai pour les églises. Oui, l'Église de Jésus-Christ ne faillira jamais. Dieu la préserve. Les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les puissances de la mort, du diable, ne pourront pas prévaloir contre elle. Mais ça ne veut pas dire que telle église particulière, telle église ici ou là, ne peut pas gravement s'égarer. On le voit bien dans les lettres de l'Apocalypse, les lettres aux sept églises de l'Apocalypse. Plusieurs s'égarent gravement et le Seigneur Jésus doit menacer d'enlever le chandelier dans lequel il manifeste sa présence, sa lumière. L'apôtre Paul, au chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, dit que tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël est un avertissement pour nous. Le peuple de Dieu de l'ancienne alliance s'est détourné gravement et le danger n'est pas exclu pour les églises de la nouvelle alliance également. Voilà pourquoi il faut que l'Écriture seule et non pas le magistère, non pas l'action de ceux qui ont reçu un ministère d'enseignement, que l'Écriture seule soit l'instance suprême. Et il ne faut pas dire, ah oui, mais le Saint-Esprit, Satan se déguise en ange de lumière. Et pour savoir si c'est vraiment le Saint-Esprit, il faut comparer avec l'Écriture. C'est l'Écriture qui permet d'authentifier l'action de l'Esprit. Jésus compare dans un passage le Saint-Esprit au doigt de Dieu. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, dit-il, dans l'évangile parallèle, on a traduit l'Esprit de Dieu. Donc, il compare le Saint-Esprit au doigt de Dieu. Eh bien, je dirais que la Bible, c'est l'empreinte digitale du Saint-Esprit. C'est par la vérification dans les Écritures que l'authenticité de l'Esprit qui se prétend Saint-Esprit peut être testée, peut être effectivement évaluée. Alors, pour que l'autorité fonctionne, il faut aussi que l'Église nous guide dans son interprétation et de manière rigoureuse et objective. C'est ainsi que l'Écriture nous est guide et libératrice, nous conduit vers le port. Alors, dernier point à soulever, et aujourd'hui, tout ce que je viens de dire, vous en rendez compte, garde sa pleine actualité. Et les mensonges qui circulent dans la culture humaine et qui nous affectent inévitablement, oui, ils n'ont pas diminué en nombre. Je pense qu'avec les moyens modernes de communication, c'est encore pire que dans les siècles passés. Mais, soulignons d'abord que le langage catholique a beaucoup changé. Là, nous devons le reconnaître clairement. Et le langage de l'écriture comme suprême est devenu plus courant parmi les catholiques alentour. Il y a un pape en 1844, le pape Grégoire XVI, qui a condamné les sociétés bibliques, disant que c'est une invention du diable. Eh bien, en 1995, 111 ans après, j'ai été reçu avec une délégation de l'Alliance biblique universelle par le pape Jean-Paul II. Donc, vous voyez le contraste dans les attitudes. Deuxième point, je ne crois pas que ça règle toutes les questions. J'en ai discuté avec des théologiens catholiques. Je pense qu'il demeure un grave problème et que le principe sola scriptura, nous devons le maintenir même face aux tendances beaucoup plus ouvertes et d'ailleurs multiples du catholicisme contemporain. Mais troisième point et dernier point que je soulève, le plus gros danger aujourd'hui ne me semble pas être celui de la tradition qui se superpose à l'écriture et qui finit par en étouffer l'autorité, mais plutôt le danger symétrique qui est en question au verset 19. Quiconque retranche de l'écriture. Ce que nous voyons dans la chrétienté présente, c'est une multitude d'hommes et de femmes qui parlent au nom du christianisme et qui trient dans l'écriture ce qui leur plaît et rejettent ce qui ne leur plaît pas. Cela se pratique à très grande échelle et je pense que c'est le danger principal qui s'oppose au sola scriptura qui doit être aussi tota scriptura, par toute l'écriture. Alors de cela, nous devrons reparler le 19 novembre puisque nous nous interrogerons là plus spécialement sur la réforme dont nous aurions besoin aujourd'hui. Merci.